priorité santé avec le groupe Sounou qui est désormais présent au Congo-Brazzaville avec l'acquisition d'Alliance Congo.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Avoir le tournis, se sentir mal, avoir la tête qui tourne ou un étourdissement, de nombreuses expressions du langage courant décrivent cette sensation de rotation dans l'espace, de perte d'équilibre. Et il peut y avoir une certaine confusion entre la description des effets et la recherche des causes. S'agit-il d'un vertige ou d'un malaise? Cette instabilité est-elle associée à des vomissements et impose de s'asseoir? Ce type de symptômes impose en tout cas de consulter pour rechercher les causes, d'identifier la nature du trouble, écarter un certain nombre de maladies chroniques, d'atteintes cardiovasculaires ou de carences, pour s'orienter vers un problème qui affecte nos organes de la perception, nos organes de l'équilibre, pour aboutir sur le diagnostic d'un vertige. Essayer de comprendre ce qui s'est déréglé, la nature de l'atteinte qui a fini par déséquilibrer le système, identifier le mécanisme défaillant comme la nature de l'agression, soulager, rassurer, traiter, rééduquer si besoin, et comme chaque jour dans Priorité Santé, répondre à toutes vos questions, vos messages sur la page Facebook de l'émission et à notre numéro 33 1 84 22 75 75. Vertige, équilibre, étourdissement, malaise. Notre invité aujourd'hui, docteur Gérald Fin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien otorhino-laryngologiste à Paris, auteur de l'ouvrage De l'équilibre au déséquilibre, d'où vient le vertige, publié aux éditions Le Pommier. En RDC, on va rejoindre tout à l'heure le docteur Maggie Tshibola, médecin spécialiste en ORL à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Et puis en fin d'émission, on retrouvera la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Gérald Fin, on a bien compris, différencier les différents problèmes liés justement à ce fameux phénomène de tête qui tourne. Un exercice peut-être de définition pour commencer. Un vrai vertige pour un ORL, c'est quoi précisément?
Alors d'abord, je vais parler rapidement des organes de l'équilibre. L'équilibre, c'est la capacité du corps à placer son centre de gravité dans un polygone de sustentation, c'est-à-dire qu'on est en permanence entre l'envie de tomber et l'envie de ne pas tomber. Donc c'est un organe inconscient. Il y a 6 organes de l'équilibre. Il y a les yeux, on sait où on est de chaque côté. Il y a l'oreille interne qui permet de positionner sa tête, son centre de gravité et le mouvement du corps. Et il y a la peau, les muscles, les tendons. Et ces 6 organes, 3 d'un côté, 3 de l'autre, sont gérés par le petit cerveau qui est le cervelet derrière. Donc il faut savoir qu'un vertige, ça a une définition, ça tourne. Quand ça tourne, ça s'accompagne souvent de nausées, de vomissements, de transpiration. Donc l'interrogatoire nous permet de savoir si c'est un vrai vertige d'un faux vertige. Par exemple, les faux vertiges, c'est les malaises hypoglycémiques, les malaises vagaux, l'acrophobie, la peur de la hauteur, l'agoraphobie, le mal de mer, ce n'est pas un vertige, le mal des transports, ce n'est pas des vertiges. Donc l'interrogatoire nous permet déjà de savoir. Après, l'examen clinique ORL nous permet de faire le diagnostic, car les vertiges touchent dans la population 10% de la population, et 2/3 des vertiges sont d'origine ORL.
Justement, c'est l'ORL, le médecin des vertiges. Sinon, si on a d'autres problèmes, par exemple, d'autres malaises, on va voir qui?
C'est l'ORL qui va faire on peut aller voir le neurologue, puisqu'on a des vertiges d'origine neurologique, d'origine cardiaque, cardiologique.
C'est fréquent justement que vous réorientez vers d'autres spécialistes,
bien sûr,
vers vos confrères.
Bien sûr.
Alors, dont on parle aujourd'hui justement de cette notion d'équilibre, on parle de ces organes de perception. Est-ce qu'en général, c'est un seul des capteurs qui est défaillant ou tout peut à un moment donné se dérégler?
Alors, c'est une bonne question. Donc, notre rôle, c'est de trouver le capteur défaillant. Ça peut être l'oreille interne, bien sûr, les yeux, les muscles. Et l'examen clinique et l'interrogatoire nous fait le diagnostic dans 100% des cas en consultation.
C'est un motif de consultation en urgence?
Parfois oui, puisque un vertige, ça fait très peur aux gens. Et quand ils ont un vertige la nuit, ils appellent le SAMU pensant qu'ils ont un accident vasculaire. Donc c'est effectivement un motif d'urgence puisque les patients sont très anxieux de ces signes de vertige qui donnent on ne peut pas bouger, on reste au lit, on ne bouge pas.
Alors, est-ce que la notion d'âge, docteur Fin, c'est quelque chose qui intervient ? C'est vrai que des fois, on dit que certaines maladies se déclenchent plutôt tardivement. Notion de genre aussi, est-ce qu'on a plus de vertige quand on est femme après 50 ans ou ça ne compte pas ?
Alors, femme ou homme après ou avant de 50 ans, ça ne compte pas. Les vertiges touchent tous les âges, simplement, ils sont des diagnostics plus compliqués chez les enfants, puisque les enfants n'expriment pas aussi bien qu'un adulte leur manifestation clinique.
Vous nous avez parlé de ces organes de la perception. On a du mal à comprendre quand on voit ça de l'extérieur et qu'on est néophyte, qu'on découvre un petit peu comme moi et les auditeurs, on va dire, ou les auditeurs et moi. Quel rapport entre un problème à l'oreille interne et ces nausées, l'envie de vomir, voire les vomissements ?
L'oreille interne est reliée au tronc cérébral, qui est une zone anatomique du cerveau, qui fait que quand l'oreille interne ne fonctionne pas, le cervelet ne fonctionne pas et le tronc cérébral réagit. Il a un mauvais message. L'ordinateur ne fonctionne pas bien et donc l'ordinateur envoie un message anormal de malaise.
Le corps justement qui réagit de façon des fois un petit peu spectaculaire, comme avec ce symptôme, le nystagmus, ce battement de l'œil bizarre, qu'est-ce que c'est précisément ?
Alors c'est très simple à comprendre, l'oreille interne est reliée aux yeux. Quand vous bougez votre tête, l'oreille interne entraîne un mouvement de l'œil en mouvement inverse. Donc un nystagmus, c'est un battement normal, rapide et lent de l'œil. Et ce nystagmus, quand il est anormal, quand il est trop fréquent, ou il va entraîner le vertige. Donc le vertige, c'est tout simplement l'œil qui bouge, qui donne l'impression que la pièce tourne ou que son corps tourne dans la pièce.
Ça veut dire qu'un patient qui arrive chez l'ORL avec un nystagmus, là, à 100%, c'est un vertige ou pas forcément ?
Non, le nystagmus, c'est la conséquence du vertige.
Oui.
Donc c'est l'examen clinique qui va nous montrer le type de nystagmus et qui va nous faire le diagnostic de l'origine du vertige.
Parce qu'il peut y avoir des nystagmus qui ne sont pas associés à des vertiges.
Les nystagmus sont toujours associés à des vertiges.
Ah, d'accord. Donc ça rentre quand même dans le diagnostic.
Ça rentre dans le diagnostic. Simplement, c'est le diagnostic, c'est d'abord l'interrogatoire. Après, on met une télévision sur les yeux qui grossit les yeux, qui nous permet de voir le mouvement visuel et qui nous permettent de faire à ce moment-là le diagnostic.
Certains médicaments ont des actions, on voit ça sur la notice, antivertigineuses. Je trouve que l'expression est assez drôle. C'est quoi exactement ces médicaments ? Comment ça marche ? Comment ça agit ?
Alors, ce sont des médicaments qui endorment un petit peu le cerveau. Donc, le cerveau, dans le cerveau, il y a l'oreille interne. Donc, par exemple, quand vous avez le mal de mer, vous achetez certains médicaments en pharmacie qui marchent très bien, qui vous endorment un petit peu, et donc vous avez moins de sensations de mal de mer, par exemple, ou de mal des transports.
Alors, à côté du traitement de la crise, on peut avoir justement des médicaments. Sur quoi repose la prise en charge ?
La prise en charge, déjà, repose sur un audiogramme, un examen d'audition, un examen de l'équilibre qui se fait avec une télévision. On appelle ça une vidéo nystagmoscopie. Et à partir de là, on donne le diagnostic au patient. En sachant que les diagnostics sont relativement simples, il y a des maladies compliquées à traiter, mais les diagnostics sont relativement simples.
Et justement, pour réduire l'écart entre l'angoisse générée par ce problème de santé qui est bénin, on peut le dire, par contre, d'un point de vue psychologique, ça prend toute la place. Comment est-ce que le médecin réussit à rassurer sans finalement que le patient se retrouve parfois un petit peu vexé quand on lui dit « ça va se régler rapidement, etc. »
Alors attention, certains vertiges peuvent durer longtemps. Il y a des maladies qui sont un petit peu chroniques, mais disons que l'anxiété du patient dépend de son ignorance. Quand vous lui apprenez ce qu'il a, on dégoupille l'anxiété et le patient va mieux. Mais l'anxiété et le stress des patients amplifient de toute façon toutes les maladies, quelles que soient les maladies.
Alors, on va tout de suite, justement, donner la parole aux auditrices, aux auditeurs, avec toutes leurs questions.
RFI à Mboudjimaï, 104.9 FM.
Et donc, pour commencer, on rejoint la République démocratique du Congo, où l'on retrouve Sephora. Sephora, bonjour.
Bonjour madame.
Alors Sephora, vous avez 19 ans. Expliquez-nous pourquoi vous avez souhaité intervenir dans l'émission aujourd'hui.
Alors, je voulais intervenir dans l'émission, c'est pour parler un peu de mon expérience. Par exemple, les matins, dès que je descends du lit, si je le fais brusquement, j'ai directement la tête qui commence à tourner. Je vois presque plus rien. Et il faut que je m'arrête un moment, une ou deux minutes avant que ça ne puisse passer. Ou quand je me penche, par exemple, pour prendre quelque chose, dès que je me redresse, en tout cas, c'est le noir total. Je ne vois plus rien.
Est-ce que vous avez consulté un médecin, Sephora ?
Non, je n'ai pas consulté de médecin, sauf que j'en avais parlé aux parents. Mais il n'y a pas de réaction à ça.
Et vous vous sentez particulièrement fatiguée?
Fatiguée de temps en temps, oui, mais ce n'est pas vraiment un cas général. Ça dépend de ce que je fais pour être fatiguée.
Et ces problèmes, ils arrivent n'importe quand ou à des moments précis, quand vous avez de la fièvre, quand vous avez d'autres symptômes?
Non, ça arrive, souvent ça arrive les matins, à mon réveil, quand ça arrive, oui.
Alors, la question à notre invité ou les questions à notre invité, Sephora, qu'est-ce que vous avez envie de demander?
Oui, je voulais savoir, est-ce que ces signes-là annoncent une maladie qui est en train de grandir? Devrais-je m'inquiéter pour ça?
Vous êtes un peu inquiète, Sephora, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ça m'arrive un peu trop souvent.
Trop souvent. Docteur Gérald Fin, répondre à l'inquiétude de Sephora, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Alors d'abord, je sais exactement ce qu'elle a, donc déjà qu'elle ne s'inquiète pas, car ce qu'elle a, c'est absolument banal et extrêmement fréquent, surtout à son âge. Alors, il faut savoir que dans l'oreille interne, on a un liquide, dont je ne vais pas donner le nom, et que ce liquide peut bouger en fonction des positions du corps. On appelle ça des troubles hémodynamiques. C'est un peu, si vous voulez, pour résumer, comme si on avait une chute de tension quand on se lève. Donc les troubles hémodynamiques, on n'a pas besoin de faire d'examen complémentaire puisque déjà on sait ce qu'elle a à l'interrogatoire. Ça se traite avec des médicaments qui empêchent les mouvements de ce liquide. Les médicaments, en règle générale, ça s'appelle la bêta-histine et on donne des diurétiques et des antivertigineux et on améliore les gens en moyenne 2 mois. Si ce traitement ne marche pas, ce qui est exceptionnel, on fait de la rééducation de l'équilibre, qu'on appelle de la rééducation vestibulaire, qui sont des kinésithérapeutes spécialisé dans l'équilibre. Je ne sais pas si ça existe en République démocratique du Congo.
Oui, un Mbujimaï, c'est pas certain.
Je ne suis pas certain, mais en tout cas, il y a des médicaments qui marchent très bien. Ce n'est absolument pas grave. C'est très bien expliqué quand elle nous le raconte. On appelle ça des troubles hémodynamiques, c'est-à-dire du liquide dans l'oreille interne qui bouge anormalement.
Vous dites ces traitements qui rétablissent la situation dans la plupart des cas au bout de 2 mois.
Oui,
on les prend sur quelle période, justement?
Maximum 2 mois. Bon, on les prend...
Le temps que ça se
résolve. Non, on donne des traitements pendant quelques semaines, donc les gens n'ont plus leur malaise. Donc, ils sont tranquilles pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et quand ça recommence, on leur redonne un traitement de quelques semaines.
Et ça peut être diagnostiqué par un généraliste ou il faut un spécialiste?
Les généralistes ne connaissent pas bien, puisque ces troubles hémodynamiques ne sont aussi pas très connus de certains ORL qui les confondent avec les chutes de tension. Mais disons qu'un bon médecin va faire le diagnostic et va donner un traitement. Donc, c'est la bêta-histine, Agirax et un diurétique comme le Lasilix, par exemple, le Lasilix faible. Et on donne ça pendant quelques semaines.
Mais déjà, aller voir le médecin avec le nom de cette maladie. Sephora, c'est possible pour vous d'aller consulter à Mbujimaï?
Oui, c'est possible. C'est vrai parce que là, les parents sont en train d'écouter l'émission. Ouais. Je pense que nous allons voir le médecin.
Je pense que c'est la bonne solution,
cas,
si ça peut vous soulager.
En tout cas, ne vous inquiétez absolument pas, Sephora. C'est très classique, banal. On n'a pas besoin de faire d'IRM. Ce n'est pas le signe d'une maladie grave, car de toute façon, ça se guérit.
Bon, la journée commence bien pour vous, Sephora.
Exactement.
Exactement. Très bonne journée et saluez le coq de la part de toute l'équipe de Priorité Santé. On est souvent dans les basses-cours, mais tout va très bien. On aime aussi les animaux. On va lire une question d'un auditeur de Mauritanie, parce que hélas, on n'a pas réussi à joindre Eladj ce matin. Eladj qui a 53 ans, qui a des vertiges depuis maintenant 2 ans, des étourdissements à n'importe quel moment. Et même quand il est en train de marcher dans la rue, quand il traverse, il tourne la tête à gauche, à droite. Et à ce moment-là, l'étourdissement arrive avec une forme de déséquilibre. Il a même l'impression qu'il pourrait tomber. Ça dure 15 bonnes secondes. Et Eladj est contraint de s'arrêter pour que ça passe. Alors, il se pose forcément des questions. Quand on a préparé l'émission avec Louise, Eladj a confié qu'il se demandait si ce n'était pas lié au froid, parce qu'il a remarqué que quand le climat est plus froid, ça survient plus souvent. Il se demande aussi si ce n'est pas lié à son alimentation, quand il mange plutôt gras. Il n'a pas vu de médecin pour l'instant. Et la question qu'il souhaitait vous poser, docteur Gérald Fin, là je viens de résumer son propos, c'est justement s'il peut y avoir des liens entre l'alimentation et les vertiges.
Aucun.
Aucun.
Aucun. Donc déjà,
c'est clair.
Voilà. C'est pas comme les hommes politiques, aucun. Donc, il a un diagnostic encore plus simple que le précédent. On appelle ça un vertige de position. Dans l'oreille interne, on a parlé du liquide. Dans ce liquide, on a des cristaux qui sont disposé dans tous les plans de l'espace. Et quand on bouge la tête, un seul cristal va bouger et ça va renseigner notre corps de notre position dans l'espace. Quand on est un peu anxieux, ces mouvements de cristaux sont un peu amplifiés. Et quand vous tournez la tête, c'est le seul vertige qui survient quand on tourne la tête, la nuit ou dans la journée, ça provoque un vertige. On appelle ça un vertige de position ou vertige paroxystique bénin. Donc c'est lié à l'émotionnel, ni à l'alimentation, ni aux vertèbres. Et ça se guérit en 3 séances de rééducation de l'équilibre. Je ne suis pas sûr qu'il ait ces spécialistes de kinésithérapeutes spécialisés en Mauritanie, mais ça se guérit en 2-3 séances, désormais en une semaine.
Et si justement, c'est difficile comme question, je sais, on n'a pas ces spécialistes, comment est-ce qu'on
fait? Alors on peut le faire à distance, c'est-à-dire qu'on peut faire des visioconférences avec des rééducateurs de l'équilibre en Europe qui montrent à ce moment-là aux médecins généralistes de leur coin comment faire.
Comment est-ce qu'on s'engage justement dans cette rééducation? C'est au niveau purement oculaire ou on va avoir aussi des choses au niveau de la gestuelle?
Non, on les bascule brutalement, on remet un peu le cristal en place. Alors c'est pas du tout de l'ostéopathie ni ni psychologique, hein. C'est vraiment un examen qui a été inventé d'ailleurs par un Français qui s'appelait Monsieur Semon. Ça marche extraordinairement bien, on bascule le patient du côté opposé où il y a le vertige.
Voilà donc pour cette réponse à El Hadj qui est à Nouakchott. On va poursuivre l'échange avec les auditeurs de Priorité Santé. On ira également en République démocratique du Congo pour donner la parole à l'une de vos consoeurs qui exerce à Kinshasa tout de suite après cette chanson de Felipe L. Kilario. Priorité Santé sur RFI, aujourd'hui nous parlons des vertiges, maladie de Ménière, troubles vestibulaires avec notre invité le docteur Gérald Fin, chirurgien otorhinolaryngologiste à Paris. Et tout de suite on prend la direction de la Guinée, de Conakry précisément, avec en ligne Idrissa. Idrissa, bonjour.
Bonjour Madame Caroline, vous allez bien?
Ça va très bien. Alors vous nous avez appelé parce que vous aussi vous êtes concerné par un problème de vertige. Ça dure depuis quand Idrissa?
Ça fait au moins une année.
Mmh. Et vous avez pensé quoi, justement, quand ce problème est arrivé?
Quand ce problème est arrivé, c'était au moment du mois de Ramadan 2020.
Mmh.
Vous savez, étant musulman, j'ai cru que c'était l'effet du jeûne.
Mmh.
Mais une fois que le Ramadan était derrière moi, Ça continuait. Et là, j'ai été contraint finalement d'aller voir un spécialiste ORL.
Mm-hmm.
Ce dernier m'a examiné. Il m'a fait une audiogramme tonal et une tympanogramme.
Et sa conclusion, le médecin vous suit et comprend, moi pas forcément. C'était quoi la conclusion de cette ORL que vous avez vue à Conakry?
Oui, il m'a tout simplement dit que c'est une espèce de liquide qui est sécrété, je ne sais pas, dans l'organisme qui se trouve dans mes oreilles.
Oui.
Il faut forcément que ce liquide soit évacué de mes oreilles afin que je retrouve l'équilibre.
Et vous avez pris un traitement, qu'est-ce que ça a donné?
Ça n'a presque rien donné. Il m'a prescrit des corticoïdes, des médicaments qu'on appelle isolone et quelque chose qu'on pompe dans les narines. Mmh. Ça s'appelle Avamis. Mmh.
Et donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes retourné le voir?
Oui, je me suis retourné le voir finalement. Il m'a dit que la prochaine solution, c'est de percer mon tympan pour libérer, comment dirais-je, ce liquide. Et c'est chose que j'ai pas accepté.
Vous avez refusé et maintenant vous avez besoin d'une réflexion et de poser des questions.
Absolument.
Donc maintenant, c'est à vous la parole, hein, docteur Gérald Fin.
Je suis prêt. Je suis prêt.
Idrissa qui pose un problème, on comprend quand on vous dit on va vous percer le tympan. Voilà. En tout cas, dans l'expression, c'est quelque chose qui peut faire peur.
Je vais essayer d'éclairer Idrissa. Alors Idrissa, voilà. Votre diagnostic est évident. Vous avez ce qu'on appelle une maladie de Ménière. Ménière, c'est un ORL français du 19e siècle qui a laissé le nom à cette maladie. Je vous ai expliqué tout à l'heure que l'oreille interne, donc on est dans le cerveau. Les traitements qu'on vous donne pour le nez, c'est absolument aucun intérêt. Je ne comprends même pas qu'on vous donne des anti-allergiques. Donc on est dans le cerveau et dans l'oreille interne, on a un liquide effectivement. Et dans cette maladie de Ménière, on ne sait pas pourquoi ce liquide augmente de volume chez certains patients. Et habituellement, on a un système d'évacuation de ce liquide qui chez vous ne fonctionne pas. Donc ce liquide comprime dans le cerveau votre organe de l'équilibre et ça vous donne ces malaises. Donc c'est une maladie qu'on connaît bien, qui se traite d'abord médicalement. J'ai parlé tout à l'heure des diurétiques. On a des diurétiques, on a des médicaments à la bêta-histine et on a des médicaments en intraveineux qui marchent extraordinairement bien contre ces vertiges. Alors c'est difficile pour moi de vous les prescrire puisque c'est à l'ORL de le faire. Et effectivement, dans 10% des cas, lorsqu'on ne s'en sort pas, mais on s'en sort habituellement dans 90% des cas, on propose un geste chirurgical qui est très simple, qui consiste à mettre ce qu'on appelle un yo-yo. Les yo-yo, on met ça chez les enfants, on ouvre artificiellement le tympan, c'est une intervention très simple, on n'a rien à aspirer, c'est une intervention qui est bénigne, et quand on met un yo-yo, on empêche l'hyperpression de l'oreille. Alors les yo-yo marchent dans 50% des cas, c'est une intervention bénigne, mais qui ne doit être faite que si on a eu un traitement adapté, ce qui ne semble pas être votre cas. En Europe, les diagnostics se font par la vidéonystagmoscopie, donc l'examen d'équilibre, et on fait maintenant des IRM, qui sont des IRM 3 Tesla, qui sont très puissantes, que vous n'avez malheureusement pas en Guinée, qui montrent la dilatation de l'oreille.
Donc, un conseil concret. Aujourd'hui, Idrissa, il a vu cette ORL donc, qui lui a fourni ce diagnostic. On peut lui dire quoi? De retourner?
Il faut retourner et puis surtout lui expliquer que d'abord, il faut essayer des traitements médicaux extrêmement efficaces. Ce n'est pas la cortisone qu'on donne du tout dans cette maladie. Il va falloir retourner le voir et lui expliquer qu'il faut, sinon il nous envoie en France ou en Europe un mail, on lui donnera les traitements à suivre.
Mais ça va être difficile. Non, c'est pas possible. C'est pas possible sur cette voie. Il faut vraiment mieux qu'il aille.
Il vaut mieux aller le voir. Donc il faut donner trois types de traitements: la bêta-histine, des intraveineuses qu'on appelle du sulfate de magnésium, qui sont des intraveineuses extrêmement sophistiquées qui marchent extraordinairement bien, et des antivertigineux. On améliore les crises extrêmement rapidement. Et c'est une maladie qui est imprévisible, qui peut donc guérir et puis qui peut être chronique. Mais dans tous les cas, on améliore les gens.
Ce qui peut être fait aussi, Idrissa, c'est de vous rapprocher du CHU, hein, de l'hôpital, et d'aller au service ORL directement.
Bien sûr. Il faut aller voir quelqu'un qui connaît bien cette maladie, qui est quand même une maladie extrêmement fréquente.
Voilà, Idrissa. Vous avez bien suivi, entendu tous ces conseils?
Oui, j'ai entendu. Merci. Merci beaucoup, docteur.
Merci à vous, Idrissa. Plaisir. Merci pour votre appel. On va partir tout de suite pour la République centrafricaine.
Ouais.
RFI.
Retrouvez Neri. Neri, bonjour.
Bonjour, Madame Caroline.
Alors, vous aussi, vous avez besoin d'explications parce que vous êtes victime de vertige. Expliquez-nous dans quelles circonstances eh bien, cette tête qui tourne se produit.
Au fait, depuis 2 mois, ce type de vertige, quotidiennement, ça me dérange. Souvent même en classe ou en marchant, et c'est chaque 10 heures que ça m'arrive.
Ça n'est pas simplement à un moment précis de la journée, ça peut arriver à plusieurs moments de la journée.
Oui, oui.
Et ça arrive depuis 2 mois. Comment est-ce que vous avez remarqué? Il s'est passé quelque chose de précis à ce moment-là?
Non plus.
Rien de précis. Est-ce que vous avez fait des examens, comme vous posiez des questions, pour voir s'il y avait autre chose qui n'allait pas?
Oui, je suis allé voir un médecin. Il m'a fait juste la prise de sang. On pensait que c'était de l'anémie, mais le résultat ne donne rien.
Mmh. Et maintenant, c'est quoi les questions que vous voulez poser à notre invité, au docteur Gérald Fin?
Bon, je veux savoir, en cas de tel vertige, quel examen puis-je faire? Parce que je suis allé voir le médecin, il m'a fait juste la prise de sang.
Juste la prise de sang, mais c'était déjà une bonne idée de faire cette prise de sang pour voir si vous n'aviez pas un problème, on va dire, organique ou une carence. Docteur Gérald Fin, qu'est-ce que vous pouvez dire à Néry, donc, qui se pose ces questions, qui a des étourdissements, que ce soit le matin ou même quand il marche?
Alors d'abord, la prise de sang, ce n'est pas un mauvais examen et c'est intelligent de l'avoir fait. Néry décrit à peu près la même maladie que,
Séphora.
Que Idrissa.
Idrissa aussi.
Oui, parce que c'est un ménière dissocié, c'est-à-dire que ça arrive à tous les âges. Brutalement, on a une augmentation de la pression du liquide. Alors, ça ne touche que l'organe de l'équilibre. C'est pour ça qu'on dit maladie de Ménière dissociée. Sinon, les vraies maladies de Ménière s'accompagnent de surdité fluctuante. Et donc, Néry décrit exactement la même manifestation que Idrissa. Et il faut donc, pour faire le diagnostic, voir un ORL qui lui fera un examen de l'équilibre et un audiogramme et qui lui prescrira le traitement dont j'ai parlé précédemment.
Donc, Néry, là encore, essayez de vous rapprocher d'un service ORL, otorhinolaryngologie à Bangui, peut-être auprès de l'hôpital. Est-ce que vous pouvez faire ça?
Oui, je peux le faire.
Eh ben, très bien, c'est le conseil qu'on vous donne. On vous souhaite une excellente journée à Bangui. On part pour Bamako, pour le Mali. Retrouvez Lou. Lou, bonjour. Lou, est-ce que vous êtes avec nous? A priori, vous êtes avec nous, mais vous ne répondez pas. Donc, j'insiste une dernière fois. Lou, est-ce que vous êtes là? Le silence est complet, donc là, il n'y a même pas de problème de ligne. Alors, Lou, sensation de déséquilibre depuis longtemps, et on voit aussi parfois que certaines personnes souffrent de cet inconfort de longue date. Elle expliquait, Lou, dans la préparation de l'émission, qu'elle avait la sensation qu'on lui poussait la tête en arrière, là aussi perte d'équilibre, et elle doit carrément se raccrocher, se rattraper pour éviter une chute. Et elle souffre aussi, Lou, ça c'est peut-être aussi important de le souligner, de migraines, de violentes migraines. Alors c'est vrai que on parlait tout à l'heure des autres spécialistes qui peuvent prendre en charge ce type de problème. Neurologue, ORL, qu'est-ce qu'on peut dire à Lou?
Alors Lou, elle a un diagnostic aussi évident qu'on appelle une migraine accompagnée, c'est-à-dire qu'elle a des vertiges qui s'accompagnent de la migraine. Donc le diagnostic, il est évident quand je lis son texte, il faut qu'on lui fasse par sécurité une IRM. Les scanners ne servent pas à grand-chose. Et il faut lui traiter sa migraine. Donc, c'est la spécialité des neurologues. On a une dizaine de traitements extrêmement efficaces qui vont la guérir de ses instabilités.
Lou, on a réussi à vous rejoindre. Est-ce que vous êtes là?
Oui.
Bah bonjour, ça fait plaisir de vous entendre. Est-ce que vous avez déjà consulté un neurologue au sujet de vos migraines?
Oui, j'ai déjà consulté un neuro.
Oui.
Il s'est mis sous traitement et j'avais fait beaucoup de radio. J'ai fait un scanner. En même temps, je faisais tout le 6 mois un électroencéphalogramme.
Docteur Fin.
Oui, c'est bien, mais l'examen fondamental, c'est l'IRM. Après, à partir de l'IRM, on peut arrêter tous les examens complémentaires. Il faut trouver un traitement dans la migraine. La migraine, c'est une hormone qu'on appelle la sérotonine, qui est sécrétée en excès par le cerveau et qui provoque chez certains patients justement ces maux de tête insupportables, ces nausées et ces troubles de l'équilibre qui sont ce qu'on appelle des migraines accompagnées. Donc en traitant l'origine, qui est la migraine, et on a plein de traitements, dont les bêta-bloquants, dont le Zomig, enfin tous ces médicaments que tout le monde connaît. On trouve le traitement efficace et on va arrêter vos crises d'instabilité.
Et quand Lou demande, est-ce que je peux anticiper les crises? Qu'est-ce qu'on peut lui dire?
Ah, c'est une bonne question, c'est très compliqué, puisque quand une migraine arrive, elle doit passer, quoi. C'est un peu comme un typhon. Justement, on ne les anticipe pas, il faut donner des traitements qui évitent les crises.
Ça veut dire qu'il y a aussi souvent des traitements au long cours. Hein. Il y a le traitement de crise et le traitement de fond.
Qui sont traitements sur plusieurs mois, oui. Mais ça, c'est le rôle du neurologue. Hein.
C'est le rôle du neurologue et non de l'ORL. Lou, donc, le conseil, c'est de retourner voir un neurologue. Est-ce que vous êtes disposé à le faire?
Oui.
À le faire, oui. Surtout pour vous soulager. C'est très important pour justement sortir de ces crises. Vous l'expliquiez, qui pouvaient jouer beaucoup sur votre morale. Bon courage à vous, Lou. On va prendre une dernière question. Là encore, c'est une auditrice qui a des interrogations au sujet de sa santé. À Douala, au Cameroun, on retrouve Nadège. Nadège, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors, vous aussi, des vertiges depuis des mois. Est-ce que le début de ces étourdissements correspond à un événement particulier?
Oui, effectivement. Ça correspond à un retard de grossesse.
Un retard de grossesse, ça veut dire que vous étiez enceinte et la grossesse n'a pas abouti, c'est cela?
Effectivement, ça n'a pas abouti. Elle s'est interrompue à 4 semaines.
Et vous avez ressenti un choc à ce moment-là? Et après, vous avez eu des sortes de malaises, c'est ça?
Bien avant, j'avais déjà des malaises. Et après, ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui.
Et vous avez consulté pour faire une sorte de bilan de santé pour écarter d'autres causes?
Effectivement, j'ai consulté.
Et qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Oui, qu'est-ce qu'on vous a dit?
Après les multiples examens, on n'a rien vu de particulier. Mmh. Et le médecin a conclu que c'est le stress. Et il m'a donné juste quelques compléments alimentaires. Il m'aide beaucoup à me reposer. Mais hélas, ça continue.
Mmh. Quand vous parlez de stress, vous vous sentez comment, Nadège? Vous vous sentez énervé ou plutôt déprimé, un petit peu, comme on dit trivialement, au fond du trou? Vous vous sentez comment?
Bon, je peux pas dire déprimé ni énervé, mais le quotidien n'est pas facile. Mmh. Chaque jour a ses défis et puis au quotidien, ce n'est pas évident.
Mmh. Vous sentez un poids, un fardeau, hein, c'est ça?
Oui, je me sens parfois dépassée et puis à chaque jour, ça peine.
Mmh. La vie n'est pas forcément simple. Nadège, qu'est-ce que vous souhaitez poser comme question à notre invité qui est ORL, donc spécialiste de tout ce qui est ses sens, hein, ses sens de l'oreille, tous ces problèmes de vertige? C'est quoi votre question?
Effectivement, ma question est la suivante. J'aimerais savoir, c'est parce que j'ai négligé un détail de ma santé. Mmh. Parce que depuis les petits examens que j'ai fait, ça ne donne rien, je continue à avoir les vertiges. À temps et à contre-temps, j'ai les vertiges. Je ne sais pas si je peux me donner une instruction particulière à suivre.
Nadège, moi j'ai une question, parce que quand on a préparé l'émission, il y a une information importante qui a été donnée. Elle concerne, c'est vrai que des fois on pose cette question, ça peut paraître indiscret, elle concerne votre poids. Vous pesez combien, Nadège?
Bon, actuellement, je pèse 105 kilos.
105 kilos, pour quelle taille?
1m60.
1m60. Est-ce que vous avez parlé de ce surpoids? Parce que là, on peut parler d'un surpoids, hein, sans juger, c'est juste un fait. Est-ce que vous avez parlé de ce surpoids à un médecin?
C'est. Je me rappelle la dernière fois, j'ai intervenu à l'émission, ça parlait de l'obésité. En ce moment, oui. je pesais 115 kilos.
Oui.
Oui, le monsieur
Le médecin, oui.
Il m'a donné le conseil, il m'a donné certains conseils que j'ai appliqués. Mmh. Et aujourd'hui, j'ai baissé au moins de 9 kilos.
Ben bravo, c'est très très bien.
Bravo.
Et j'imagine qu'il vous avait conseillé, si j'ai bonne mémoire, de faire de l'activité physique. Est-ce que vous avez réussi à trouver justement les mouvements qui correspondent aussi à votre corpulence pour ne pas trop vous essouffler, mais pour faire ça avec pas mal de plaisir? Est-ce que vous avez trouvé ça?
Si, j'ai trouvé la marche.
La marche, c'est bien. Mmh. Alors, je vais donner la parole au docteur Gérald Fin. Encore une fois, Nadège, hein, si je posais ces questions, c'est absolument pas pour stigmatiser le poids, mais c'est parce que c'est un indicateur de santé, tout simplement. Docteur Fin.
Oui, alors Nadège, Bonjour. Vous racontez quelque chose dont j'ai parlé au départ qui ne sont pas des vertiges, mais qui sont probablement des malaises qui ne viennent pas de l'oreille. Et donc, effectivement, il faut rechercher du côté de la médecine générale s'il n'y a pas de diabète, s'il n'y a pas de manifestation anormale au niveau de votre sang qui peut expliquer ça. Car il y a quand même une relation de cause à effet après votre problème gynécologique. Et ça me semble un petit peu évident. Alors le poids, bien sûr, c'est pas facile de maigrir, mais en tout cas, je vous félicite déjà d'avoir perdu 9 kilos, ce qui n'est pas évident. Donc il faut s'orienter vers vers votre médecin généraliste qui va poursuivre les investigations pour rechercher une manifestation d'anomalie biologique sanguine. Hein. Mmh. Car il y a forcément quelque chose qui se passe à ce niveau-là, ou une anémie, enfin il y a quelque chose.
Voilà, voilà Nadège, on vous souhaite une bonne journée, bon courage. Hein. Bon courage à vous, on va maintenant rejoindre la République démocratique du Congo.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
On vous retrouve, docteur Maggy Tshibola, bonjour.
Bonjour Madame Caroline.
Alors vous êtes médecin spécialiste en ORL à l'hôpital général de référence de Kinshasa. On a entendu toutes ces questions, toutes ces interventions des auditeurs sur les vertiges, tous ces symptômes. Est-ce que c'est à l'origine de beaucoup de consultations dans un hôpital comme le vôtre ?
Oui, nous remarquons que les malades viennent de temps en temps. Sur 10 patients, vous pouvez avoir un patient qui vient avec la tête qui tourne. Non, ça c'est pas exclu.
On a beaucoup parlé de l'interrogatoire. De votre côté, sur quelles étapes, quels examens repose votre diagnostic ?
Voilà, nous commençons toujours par l'interrogatoire, qui est très très important et qui est la base même de notre diagnostic, pour poser mieux notre diagnostic, je voulais dire. Les malades viennent avec la tête qui tourne et qui ont aussi des nausées, les vomissements, qui sont des symptômes qui peuvent être ajoutés. Entre autres aussi, ils peuvent se plaindre de troubles d'audition, des acouphènes également, et c'est ce qui nous pousse à demander certains examens, à part quelques examens cliniques que vous pouvez faire, mais on demande plus l'audiogramme, qui est faisable un peu facilement dans notre pays. Et à part cela, le patient peut passer également un IRM ou un scanner si c'est nécessaire.
Est-ce que vous disposez, docteur, de tous les appareils, de toutes les technologies d'exploration pour poser vos diagnostics ?
Non, ça c'est pas chez nous. Par exemple, nous n'avons pas de vidéonystagmographie.
Mmh. Le docteur en parlait, le docteur Fin en parlait tout à l'heure. Ça peut être important pour certains diagnostics.
Mais nous faisons quand même le nystagmus spontané qu'on regarde à travers notre lunette de Franzel qui nous donne quand même des éléments et des mouvements oculaires. Et nous faisons aussi des épreuves caloriques. C'est bien dépassé, mais ça nous aide encore pour poser mieux notre diagnostic.
Est-ce que les patients viennent plutôt vous consulter de façon précoce ou est-ce qu'il y a beaucoup de délais entre les premiers symptômes et le rendez-vous dans votre service ORL ?
Oui, nous sommes dans un hôpital, je dirais, populaire, l'hôpital où il n'y a pas assez de moyens pour nos patients. C'est-à-dire, ce n'est pas tout celui qui se met le même jour à consulter qui vient directement. Il passe d'abord par des petits centres où il fait des examens de goutte épaisse et tout, parce qu'on met sur le compte d'un paludisme, mais après avoir sillonné, il peut quand même venir nous voir et faire un examen ORL.
Et est-ce qu'il passe aussi par d'autres voies, j'entends par là, par les tradis, par les guérisseurs, avant d'arriver à l'hôpital ?
J'ai pas encore eu beaucoup de cas. Non, pas forcément pour ce genre de symptômes. Non, parce que nous sommes dans une grande ville quand même.
Et en termes de prise en charge, justement, tout à l'heure, le docteur Fin évoquait certains médicaments particulièrement utiles, par exemple pour la maladie de Meynière. Est-ce que vous avez ces traitements pour traiter les crises ?
Oui. Sur place, nous avons la bétahistine, qui est courant, qu'on ne prescrit même pas les généralistes. Et nous avons également de la ZIX qu'on donne, mais dans des milieux aussi hospitaliers pour surveiller deux fois les patients.
Et du côté de la prise en charge, on a évoqué les séances de rééducation. Alors là, est-ce que ça existe, hein, par exemple, la rééducation vestibulaire?
Oui, actuellement, nous avons des médecins physiques qui nous aident de temps en temps. Nous renvoyons nos patients au niveau de ces médecins qui les prennent en charge de kiné, d'habituation et qui marchent très, très bien au pays.
Et maintenant, justement, en termes un petit peu de messages, si vous aviez un dernier message à faire passer pour améliorer la prise en charge, améliorer les moyens de diagnostic comme de traitement pour la population congolaise?
Oui, oui. En tout cas, nous y tenons. La société ORL est en train de former encore de plus en plus de médecins pour couvrir l'étendue du pays afin de prendre en charge correctement notre population en charge. Je pense que dans 10 ans, nous serons à mesure de prendre correctement en charge les vertiges en RDC.
Docteur Maggie Tshibola, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous de Kinshasa. Docteur Gérald Fin, je vous voyais réagir, notamment sur l'absence de certains matériels qui font que, dans certains contextes, on va dire, c'est comme si on était combien d'années en arrière, oui, par rapport au niveau de... Même si les compétences, bien sûr, peuvent être totalement les mêmes.
Oui. Le matériel, c'est une chose, ce qui est très important, l'humain, c'est les médecins, l'humain.
Ouais. L'humain.
Je vois que Maggie Tshibola est très humaine, un médecin qui est probablement de très haut niveau. On a la chance en Europe et dans les pays, entre guillemets, équipés d'avoir des... Simplement, le diagnostic, c'est souvent la réflexion. Il y a quelques années, nous n'avions pas tous ces examens. On faisait quand même des diagnostics. Donc, c'est bien d'être aidé. Après, le cerveau du médecin et du chirurgien aide aussi beaucoup.
Et la formation.
Donc, ils sont très bien formés. Donc, vous savez, tout le monde est pareil dans tous les pays.
Mais ça, je suis bien placée pour le savoir. Pourquoi est-ce que certains médicaments, docteur Gérald Fin, c'est ce qu'on lit sur la notice, pourquoi des médicaments provoquent des vertiges?
Il y a plein de... De toute façon, le principe de précaution français fait que chaque effet secondaire, même 1 sur 1 million, va être écrit sur la notice. Donc, il y a des médicaments qui, effectivement, peuvent agir au niveau des zones de l'émotion, certaines zones cérébrales, parfois dans l'oreille interne. Il y a des médicaments qui sont toxiques pour l'oreille interne. Tout le monde les connaît. Ce sont des médicaments, par exemple la quinine, c'est toxique pour l'oreille interne. Certains antibiotiques sont toxiques pour l'oreille interne, certains anti-inflammatoires. Mais les effets secondaires sont tellement exceptionnels qu'il ne faut pas hésiter à prendre les médicaments quand même, qui sont prescrits pour d'autres maladies parfois plus graves que les vertiges.
Alors, il y a des vertiges qu'on n'a pas évoqués, et là, pour lesquels il est conseillé d'aller voir une sage-femme ou un gynécologue, ce sont ceux qui sont liés à la grossesse. Qu'est-ce que c'est le lien? Est-ce que c'est là des vertiges ou est-ce que c'est des malaises?
Alors, la grossesse peut provoquer toutes les maladies vertigineuses dont on a parlé. Simplement, les femmes enceintes ont un corps étranger sympathique dans leur ventre qui fait que ça modifie leur physiologie du corps qui peut provoquer effectivement des malaises. Et les femmes enceintes sont sujettes à beaucoup de malaises qui sont des pseudo-vertiges.
On n'a pas eu tout à l'heure avec les auditeurs un cas précis, une maladie qui s'appelle la névrite vestibulaire. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots?
Alors, la névrite vestibulaire est une urgence de diagnostic pour les patients parce qu'ils ont peur. Donc c'est un vertige brutal dont le diagnostic est très simple. C'est quelqu'un qui a un vertige brutal à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit où les gens vomissent, ils ne peuvent pas bouger, ils sont ni bien couchés ni bien debout, ils vomissent. Donc on leur fait une IRM en urgence pour les rassurer et on a des traitements d'urgence en intraveineux qui améliorent le vertige et on fait de la rééducation de l'équilibre. Et les névrites vestibulaires qui sont à peu près 5% de l'ensemble des vertiges sont guéris en plupart du temps en un mois.
Merci beaucoup, docteur Gérald Fin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Toutes ces réponses pour les auditeurs de l'émission. Et c'est le moment de parler d'activité physique. Dans Priorité Santé, on vous retrouve. Docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Médecin du sport. Et aujourd'hui, vous allez, docteur Sen, nous parler des courbatures. C'est vrai que parfois, elles peuvent inquiéter après une séance de sport, après un effort inhabituel. Et cette première question toute simple, d'où viennent ces courbatures?
Absolument, Caroline. Les courbatures apparaissent 1 à 2 jours après un effort musculaire intense et inhabituel. Ça apparaît après un effort inhabituel. Alors, que ce soit dans l'intensité, hein, par exemple, si on fait un exercice fractionné, c'est-à-dire qu'on court très vite sur des courtes distances alors qu'on a l'habitude de faire du footing plutôt lent, eh bien on risque d'avoir des courbatures. Même chose si on fait une gestuelle inhabituelle, par exemple on a pour idée de faire un match de tennis ou un match de squash alors qu'on n'a pas l'habitude, eh bien on va avoir ces fessiers qui vont être extrêmement douloureux. Et ça, c'est parce qu'on fait faire des contractions, des exercices qui ne sont pas habituels à ces muscles qu'on utilise pourtant régulièrement. Alors les muscles sont en train de s'adapter quand il y a des courbatures. C'est pour ça qu'on peut les retrouver à la fois chez le débutant ou chez le grand sportif, tout simplement parce que, eh bien, il suffit de faire un exercice inhabituel, et ça c'est vrai pour tout le monde, pour que ces courbatures puissent apparaître. C'est quoi ? Ce sont des micro-lésions, c'est-à-dire des petites lésions qui sont diffuses dans l'ensemble du muscle et qui apparaissent du fait de ces exercices inhabituels. Généralement, ça dure 24-48 heures, mais ça peut durer jusqu'à 72 heures. Et en fait, l'intérêt de la réparation de ces micro-lésions, eh bien, c'est que le muscle se reconstruit plus fort, et donc c'est une adaptation tout à fait positive.
Et ces courbatures, c'est habituel ? Est-ce que c'est même obligatoire après le sport, docteur Sen ?
Eh bien non, c'est absolument pas obligatoire. Si on reprend le sport, il est même préférable de commencer doucement, justement de faire quelque chose de très progressif. Et ça, c'est intéressant parce que ça évitera d'avoir des courbatures, quelquefois qui sont douloureuses et qui, au contraire, font arrêter ou empêchent, évidemment, de reprendre d'autres séances. Donc l'intérêt, c'est d'être dans cette zone, légèrement sortir, mais sans trop sortir de sa zone de confort, et là la séance est également tout à fait bénéfique. L'intérêt pour éviter d'avoir ces courbatures aussi, c'est un entraînement régulier. Et on va dire que ces courbatures sont tout à fait indicateurs de l'état de forme. Si vous ressentez des courbatures après chaque entraînement, c'est que justement votre corps n'a pas encore assimilé la particularité du geste ou les difficultés des entraînements que vous proposez. Alors, s'échauffer, c'est aussi intéressant parce que ça peut permettre de limiter légèrement les blessures. Mais les courbatures ne sont pas empêchées justement par cet échauffement.
Et quand elles apparaissent, quand elles sont là, comment est-ce qu'on peut les faire passer ?
L'intérêt pour faire passer les courbatures, la première chose, c'est de se reposer. C'est-à-dire de
Je sais faire, hein, c'est bon.
De mettre en repos la zone concernée, mais il faut quand même faire de l'exercice. Oui, voilà, bon. Mettre en repos la zone concernée. Par exemple, on a forcé sur les cuisses, le but après, ça va être de travailler le haut du corps, par exemple, ou de faire des exercices cardiovasculaires peu intenses. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça peut améliorer justement la récupération. L'autre astuce pour essayer de limiter les douleurs des courbatures, c'est de s'exposer au froid. Alors évidemment, il y a certains sportifs qui vont faire de la cryothérapie, c'est-à-dire ils se mettent dans des grandes bassines d'eau avec de la
glace. Dans le congélateur, hein, non,
pas la peine. À 2 ou entre 2 et 10 degrés. Bon, non, pas nécessaire de faire tout ça. Simplement sous la douche, vous mettez, vous orientez un petit peu l'eau froide et vous faites passer le jet de la paume délicatement sur vos cuisses douloureuses. L'étirement après l'effort est aussi très intéressant. Alors pourquoi ? Parce qu'on va diminuer la sensibilité des récepteurs à la douleur. C'est-à-dire qu'il y a les courbatures existent bien, on diminue la sensibilité des récepteurs. Résultat, le lendemain, on a pas mal. Mais attention, il existe toujours ces micro-dommages. Donc, ce qu'il faudra éviter de faire, c'est de faire des exercices trop intensifs qui risquent de se transformer en macro-dommages. Mais en fait, faire un exercice doux le lendemain est tout à fait bien. Et puis, on n'oubliera pas de bien s'hydrater pour pouvoir récupérer. Apporter aussi une alimentation variée avec du potassium, des sels minéraux. Tout ça, c'est bien pour récupérer. Et donc, en conclusion, il faut se rappeler qu'un petit étirement vaut mieux que de grands tiraillements.
Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport. Et on vous retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et très bientôt, dans Priorité Santé sur RFI. Et merci à toute l'équipe qui chaque jour abrique votre émission. Ophélie Lassen, Louise Calédet, Didier Bleu, Laurence Nou. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est désormais présent au Congo-Brazzaville avec l'acquisition d'Alliance Congo. Tout à l'heure sur RFI.